Un ex-addict à la cocaïne à côté du premier ministre belge dans le classement, c'est ça le pouvoir de LinkedIn.
Bonjour à tous et bienvenue sur Copywriting Game. Avant toute chose, je tiens à remercier Superindep qui sponsorise cet épisode. Si comme moi vous êtes un auto-entrepreneur allergique à l'administratif qui veut juste se focus sur son activité, vous allez adorer Superindep. Perso, ils s'occupent de tout, mon URSSAF, ma comptabilité, ma TVA. Et en plus, ils viennent juste de sortir un outil gratuit pour estimer l'état de santé administratif de votre micro-entreprise en moins de 5 minutes. Je vous mets le lien en description et je vous laisse avec l'épisode. Ciao.
Ok, bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai un invité très particulier, je suis avec Gabriel. Et alors, tellement de choses à dire pour l'intro par rapport à toi Gab. Déjà, pour les auditeurs, on se connaît très bien. Gabriel, c'est le premier invité de Copywriting Game, donc là, je suis super content. Le podcast, ça fait pas mal de chemin depuis. Et pour l'anecdote, on s'est rencontrés en Turquie, à Istanbul, et c'est Gabriel qui m'a soufflé l'idée de lancer ce podcast. Donc en fait, là, il est avec nous aujourd'hui, mais si j'avais pas rencontré Gabriel, eh ben peut-être qu'il y aurait pas eu de Copywriting Game. En tout cas, ça aurait peut-être pris une autre tournure. Donc déjà, je suis super content. Bienvenue, hyper content de te retrouver sur le podcast, Gab.
Bah merci Victor, ça fait super plaisir de te retrouver et effectivement plein d'histoires et en fait ouais, c'est ce fameux Morito rooftop comme j'aime bien l'appeler, on s'était retrouvé sur le toit d'un immeuble où il y avait un espace de coworking, on s'était retrouvé, on avait parlé copywriting et puis tu m'avais posé cette fameuse question voilà, j'ai envie de me lancer en freelance et je veux faire du contenu, etc. Si t'étais à ma place, tu ferais quoi? Et puis on a discuté, je t'ai donné un peu mon analyse de l'état du marché du copywriting et je t'ai dit en fait mec, franchement moi je vais me diriger vers autre chose, mais j'aurais trop adoré lancer un podcast sur le copywriting parce qu'il n'y en a pas. Et puis et ce qui m'avait impressionné, donc on se connaissait pas, mais le lendemain tu m'as envoyé une présentation du projet en me disant tu crois que ça passe? Je t'ai dit mec fonce, vas-y, ça fait trop plaisir et full soutien et puis voilà, et puis on a gardé contact dans des communautés de freelance et puis j'ai aussi vu ton évolution dans le freelance parce que t'as lancé le podcast mais tu t'es aussi lancé en freelance. On est passé par les mêmes formateurs pour monter en compétences en compétences de vente, de présentation de projet, de tout ça et donc ça fait plaisir aussi de voir l'évolution de tous tes projets et de les discussions qu'on a aujourd'hui sont quand même vachement intéressante et on peut constater le parcours à chaque fois qu'on parle, donc c'est trop cool, fier de toi et de ce que t'as accompli, donc content d'être là.
Mais merci, mais ça fait trop plaisir, c'est vrai que il y a limite un peu de nostalgie, tu sais, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 5 ans, tu vois.
Mais t'as vu comment on a évolué, mec, c'est
ouais. Cool, hein. Ouais. Non, trop bien. Mais toi, t'as bien évolué aussi de ton côté. À l'époque, quand on a échangé, t'étais sur un tout autre secteur, t'étais plus sur le côté impact. Aujourd'hui, t'as changé, t'as pivoté et on va parler de tout ça parce que aujourd'hui, voilà, t'es sur le secteur de la santé mentale, t'as toute une histoire personnelle qu'on va aborder. Moi, la couleur un peu de l'épisode, comme je te disais, c'est vraiment parler de se montrer vulnérable sur LinkedIn et réussir à aller chercher un peu ce qu'on a au fond de soi pour le communiquer aux autres. Donc là, on prend l'exemple de LinkedIn parce que c'est pertinent par rapport à notre sujet, mais en vrai, ça pourrait être juste communiquer en ligne et se montrer vulnérable en ligne. Déjà, première question pour introduire un peu, pour démarrer. Comment tu te présentes aujourd'hui? Parce que je pense que ça a changé un peu par rapport à comment tu te présentais il y a un an. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Comment tu te présentes aux gens?
Ouais, en effet, ça a changé. Comme tu le disais, j'ai commencé sur le secteur de l'écologie avec en travaillant comme freelance pour des entreprises à impact positif. Parce que j'étais très attiré par le côté valeur. J'ai toujours eu besoin, tu vois, d'être dans un environnement où les gens portaient des valeurs fortes. Donc aujourd'hui, la santé mentale, je veux dire, il y a un lien évidemment avec cette partie-là de ma personnalité. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, mes deux activités, parce que j'ai deux casquettes pour l'instant bien distinctes, elles me permettent aussi de répondre à mes engagements, mais cette fois-ci sur le côté de la santé mentale. Donc la première casquette, c'est je suis ghostwriter en freelance, donc pour des dirigeants du secteur de la santé mentale. La mission profonde, c'est de faire émerger des leaders d'opinion sur le secteur, parce qu'on en parlera sûrement après, mais il y a beaucoup de gens sur la santé mentale qui sont présents, qui sont des utilisateurs, mais qui ne publient pas, et on a besoin de leur voix pour déstigmatiser la maladie psychique, démocratiser les solutions de prise en charge, construire un plaidoyer, etc., amener le sujet dans le débat public. Et donc moi, en tant que ghostwriter, je peux accompagner des dirigeants d'entreprise à prendre la parole et à faire de leur voix une voix qui compte et de répondre à tous ces objectifs-là, et notamment aussi développer leur projet, leur entreprise et leur notoriété sur la plateforme. Donc ça, c'est pour la partie freelance. Et donc quand je suis sur le côté business, je me présente comme ça. Et quand je suis sur la partie plutôt de mon projet en tant que créateur du podcast Sortir de l'addiction, là, j'ai la casquette ex-addict à la cocaïne, pour être précis. Et donc là, j'ai créé le podcast que j'aurais aimé avoir quand j'étais au fond du trou, en fait, tu vois, à l'époque où j'allais pas bien du tout. J'ai consommé beaucoup de témoignages, vidéos, audio, etc. Et donc, j'invite des addicts et ex-addicts chaque semaine pour parler des addictions sans tabou, en fait. Et l'idée, c'est de déstigmatiser les troubles addictifs et faire de la prévention. Et dans ce cadre-là, j'interviens aussi sur des médias, de plus en plus, dans des radios, etc. Donc ça, c'est les deux casquettes que j'ai et qui répondent, comme on l'entend bien, à mes engagements sur la santé mentale.
Là, t'as dit ex-addict à la cocaïne. Les gens qui étaient pas trop réveillés ou qui te connaissent pas, ça a fait un petit truc en mode « Ah !» Parce que c'est vrai que c'est un sujet, je sais pas si on peut dire sujet tabou, mais en tout cas, c'est pas un truc que tu dis très naturellement, tu vois.
Les autres, non.
Ouais. Mais en tout cas, tu vois, enfin, moi, t'es la seule personne qui le dit comme ça et qui a choisi de communiquer publiquement sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça fait partie de ton histoire et de ta marque personnelle.
Et de ma vie tout court. Hein. Si tu te souviens, ouais. Quand on, enfin, je peut-être pas les premiers jours, mais j'étais quand même assez rapidement parlé de oui. problématiques que j'avais traversées, etc. C'est l'image que j'ai sur les réseaux, en fait, c'est exactement la même que celle que j'ai dans la vraie vie.
Ah oui, 100%. Moi, quand t'as commencé à en parler.
Ah oui, tu lisais des LinkedIn, trucs que tu connaissais déjà.
Oui, je reconnaissais les histoires. Pour le coup, je confirme, c'est pas des bobards. J'ai vraiment entendu toutes ces histoires-là, bien avant que ça sorte sur LinkedIn. Mais je voulais te demander, en fait, qu'est-ce qui a motivé ta décision de vraiment en parler? Alors, t'as changé, t'as pivoté sur la santé mentale, mais tu vois, t'aurais pu juste te nicher sur la santé mentale sans choisir personnellement de mettre en avant ton histoire et de raconter cette période plutôt difficile de ta vie. C'est quoi les motivations profondes derrière ça?
Ben en fait, si tu veux, moi, c'est en cherchant des réponses à mon état de mal-être profond que je vivais, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 25 ans, que j'ai découvert un peu le monde de la santé mentale, mais pas comme je le connais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai d'abord découvert la psychologie avec les bouquins parce que j'ai eu besoin de mettre de la théorie en fait sur ce que je vivais. J'avais ce besoin viscéral en fait de comprendre pourquoi j'allais mal. Et donc j'ai commencé à ouvrir des bouquins et puis de fil en aiguille, j'ai un peu ouvert, si tu veux, la boîte de Pandore quoi. Moi, sur les 5 dernières années, j'ai lu je sais pas combien de livres, j'ai écouté je sais pas combien d'interviews, j'ai regardé des séminaires scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi pendant les 25 premières années de ma vie c'était le chaos et c'est comme ça qu'en fait j'en suis arrivé à prendre conscience que j'avais vécu 25 années sous l'emprise familiale de ma maman, que ce que j'avais vécu n'était pas normal, que j'avais une addiction à la, enfin que j'avais été addict à la cocaïne et qu'il y avait un mot addiction sur ce que j'avais traversé, que c'est une maladie, que ça englobe tout un champ et tout un univers et de rétablissement et de choses à faire, à ne pas faire, etc. J'ai un papa alcoolique aussi qui a toujours bu depuis ma naissance. J'ai des grands-parents qui sont concernés ou qui ont été concernés parce que certains d'entre eux sont morts aujourd'hui par la maladie mentale comme Alzheimer, la schizophrénie ou non pas la schizophrénie, Parkinson plutôt. Et donc en fait, si tu veux, en lisant et en me documentant, j'ai commencé à mettre de la théorie sur du vécu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la santé mentale, elle était mais ultra présente autour de moi. Enfin, le sujet de la santé mentale était ultra présent autour de moi. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans ce thème-là. C'était même une question de survie pour moi. Parce que comme tu connais l'histoire par rapport à l'histoire familiale, c'était extrêmement compliqué. Et le seul moyen, j'avais plus de ressources, j'étais très isolé, j'avais plus d'argent parce qu'il y avait... et l'emprise et la consommation de cocaïne. Donc les deux sont des choses qui te mettent dans les difficultés. Et mon seul moyen à l'époque, la seule ressource que j'ai trouvée pour m'en sortir, c'est de me documenter. Et donc je suis rentré dans ce monde-là, voilà, en posant de la théorie sur mon vécu en fait.
Et du coup, t'as posé la théorie et t'as voulu communiquer sur ce sujet-là. LinkedIn, c'est un réseau pro. Les gens, ils ont toujours un peu peur, tu vois. Chacun voit ce que l'autre a liké. Chacun est très très attentif à sa réputation. Toi, je pense que t'es le meilleur exemple de se montrer vulnérable et d'aborder des sujets personnels sur le réseau. Est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit, je vais être étiqueté ex-cocaïnomane, ça va me desservir, est-ce que t'as pas eu peur un peu de te montrer trop vulnérable?
Non. Ça peut paraître bizarre hein, quand on est de l'autre côté, mais moi je l'ai pas du tout. J'ai pas du tout eu de peur ni de doute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la situation. C'est vraiment le moment auquel j'ai commencé à prendre la parole pour comprendre pourquoi en fait j'ai pas spécialement eu de peur ou de crainte. C'est parce que donc nous on s'est rencontrés quand j'étais à l'étranger. J'étais parti en fait. J'étais à la fin d'un voyage qui à la base devait durer 3-4 mois, mais qui a duré quasiment 3 ans. Je suis parti en décembre 2019 vers l'Asie du Sud-Est et avec le Covid, j'ai décidé de rester sur place parce que ce break-là de 3-4 mois, ça faisait quoi 8 mois que j'avais arrêté la cocaïne à l'époque, et je voulais m'en servir pour faire un avant-après, tu vois, et pour rentrer en Belgique avec en ayant pris du recul, en ayant un peu soufflé, etc., tout ce qui m'était arrivé. Et donc du coup, quand j'ai pris la parole, c'était en décembre 2022. Que j'ai commencé à en parler, en tout cas à amorcer un petit peu le sujet. Et j'étais rentré en juin 2022 de ce fameux voyage. Et en fait, quand je suis rentré, certes, le voyage m'avait apporté du recul, du bien-être et m'avait fait évoluer, etc. Mais par contre, sur tout ce qui est social, enfin je devais recommencer ma vie, quoi. Et je me suis retrouvé face à un obstacle auquel je m'étais pas préparé, c'est-à-dire que j'avais besoin d'être à l'étranger, d'être loin pour aller mieux, etc. Ça m'avait servi, mais quand je suis rentré, je me suis dit putain, fait chier, y a quand même une sacrée marche à traverser. Et donc en fait, je me suis retrouvé dans des difficultés financières. À l'époque, j'étais sans domicile fixe, alors je ne vivais pas à la rue, mais j'étais radié des services de la population parce que j'avais plus d'adresse, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans des galères financières, à devoir louer un petit peu des chambres comme ça à gauche, à droite. Et donc, je traverse une période vraiment très, très compliquée. Et moi, quand je vais mal, j'écris. Quand c'est l'écriture qui m'a sauvé la vie à l'époque où j'ai compris que ma maman était une personne non seulement toxique mais dangereuse pour moi. Et donc j'ai eu le même réflexe en fait dans ce contexte-là à la fin de l'année. Et donc en fait j'ai commencé à écrire sans me dire que ça allait être un post LinkedIn. Et puis en fait dans la manière dont j'ai commencé à l'écrire, c'est devenu un post LinkedIn parce que j'utilisais déjà la plateforme. Et en fait je me suis pas posé de questions. J'ai commencé une première histoire, elle est venue toute seule. J'ai passé 10 heures dessus, enfin d'abord 5-6 heures dessus le premier soir, 3-4 heures le lendemain. Et puis je me suis dit faut que ça sorte, tu vois. Et comme j'avais la plateforme LinkedIn sous la main parce que je m'en servais pour mon activité pro, il y a aussi à ce moment-là, c'était un moment où les gens partageaient quand même beaucoup, il y avait cette mode sur LinkedIn, des histoires personnelles, etc. Donc il y avait un contexte quand même sur la plateforme, plus que maintenant en tout cas, qui tu vois, qui pouvait m'aider aussi à pas me sentir non seul contre le reste du monde. Et puis j'avais dès le départ aussi mis l'accent particulier sur la qualité des écrits. Donc tu vois, quand je te dis, j'ai passé plus ou moins 10 heures par poste, en tout cas sur les premiers, parce que je voulais que chaque virgule...
10 heures par poste.
Ouais, les premiers, oui, 10 heures, et si même peut-être plus, tu vois, j'ai pas compté, mais j'ai passé au moins 10 heures sur les premiers, en tout cas.
C'est bien de le dire, parce que tu vois, les gens, des fois, ils croient qu'on peut écrire des postes en 20 minutes, en 30 minutes, et je trouve que ça redonne un peu de noblesse aussi au métier de gosse, parce que là, tu vois, quand on entend 10 heures par poste, je pense que... Il y a très peu de gens qui passent 10 heures par poste, tu vois, mais ça te montre à quel point tu peux travailler le truc pour que ça soit calibré pour correspondre au code et que ce soit bien écrit, que ça captive les gens jusqu'au bout. Donc
oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, je saurais pas, ça serait pas rentable pour moi de travailler. Je peux pas arriver à ce niveau de qualité pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, c'est impossible parce que ça demande beaucoup de travail, parce qu'il y a aussi, c'est mon histoire personnelle, tu vois. Donc c'est aussi, c'est pas pareil. Et du coup, j'avais pas spécialement de crainte. C'est plutôt en mode, fallait que ça sorte. Voilà, c'était viscéral. Il fallait que je raconte.
Comme une thérapie.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, rapidement, rapidement, j'ai eu des retours. En 3 semaines, je passais sur CNews pour témoigner. J'étais contacté par des journalistes, invité sur des podcasts. Enfin, tu vois, le mois de janvier.
C'est un truc de fou.
Ouais, le mois de janvier. Je sais pas qu'on parlera des résultats après, mais juste sur le mois de janvier, je crois que c'est 1 million de vues, tu vois. Juste sur le mois de janvier, en 3 postes. J'ai fait un poste à 350 000 vues, j'ai fait un poste à 250 et peut-être 2 autres à 100 000. Donc ouais, j'ai fait 1 million de vues en 4 postes en janvier sur cette histoire-là.
T'as fait en 4 postes, t'as fait ce que des gens n'arrivent pas à faire en toute une année.
Ouais,
c'est en termes d'impression.
Ouais.
Non, c'est ouf.
Mais après, il y a une recette, il y a des ingrédients, tu vois. J'ai pas fait ça en claquant des doigts. Il y a le fait que ce soit une histoire qui ait jamais été vue, jamais été lue sur LinkedIn. J'ai profité aussi de tout mon réseau qui me connaissait mais qui le savait pas et qui a réagi et qui a créé aussi de la visibilité. Il y avait la qualité de l'écriture du texte, il y avait la véracité aussi, tous ces trucs là. Donc c'est des énormes résultats, mais je veux dire, ils ne tombent pas non plus du ciel et il y a une explication derrière.
Ah non, tu étais formé au copywriting, tu es copywriter à la base, enfin, tu as l'expertise pour. Donc, il y a le sujet et il y a les côtés expertise. Donc, ça, c'est pas étonnant.
Il y a justement, par rapport à ça, il y a aussi le truc de. Pour faire le lien entre pourquoi ça me faisait pas peur et pourquoi j'avais pas spécialement de doute. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais à ma place, tu vois. Je sais pas si tu connais, mais il y a le discours de Steve Jobs à l'université. Là, c'est connecting the dots. Donc, c'est relier tous les points dans ta vie qui vont t'amener à faire quelque chose aujourd'hui. Et moi, en gros, j'ai fait des études en relations publiques où j'ai étudié la prise de parole, la communication, le marketing. J'ai du recul sur mon histoire parce que je l'ai réfléchi, etc. J'ai des compétences en écriture. J'ai ce besoin et ce combat viscéral et le besoin et l'envie d'aider les autres. Et donc, en fait, ça relie mes compétences, ma personnalité et l'envie profonde des choses que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, tu vois, ça, pour moi, ça, c'était tellement fort et tellement, comme je le dis, viscéral, que les doutes, les peurs, etc., tu vois, aujourd'hui, je suis à ma place. J'ai trouvé ma place. Donc, quand j'ai commencé à écrire, je l'ai compris tout de suite. Donc, tu comprends qu'à côté, les doutes, les peurs, les inquiétudes, j'y ai même pas pensé, quoi.
Donc là, tu disais, t'as commencé à communiquer sur ce sujet-là en décembre 2022. Là, ça fait un peu plus d'un an. Tu disais, au bout de 3 semaines, t'as été invité sur CNews. Si tu devais un peu, avec le recul, nous faire un peu un petit état des lieux de ce que ça t'a apporté, que ce soit en termes de résultats, mais aussi sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui de communiquer sur ces sujets-là?
En vrai, tu veux quoi? Tu veux les résultats ou...
Ouais, vas-y, balance les résultats en premier, comme ça, on va mettre des chiffres, ça va accrocher les gens. Et après, le plan perso.
Donc du coup, en fait, sur l'année 2023, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai été actif que 6 mois sur la plateforme, parce que une fois que ça a explosé, j'ai eu besoin de temps pour souffler et encaisser un peu ce qui m'était arrivé, parce que ça a été très, très intense. Il a fallu que je me pose les questions de est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et que j'encaisse tout simplement, tu vois. Donc j'ai écrit 100 posts, j'ai rédigé 100 posts, dedans il y en a que j'ai reposté parce que j'ai utilisé il y en a plusieurs à plusieurs périodes de l'année que j'ai reposté en modifiant un petit peu, en retravaillant le texte et en l'optimisant. Donc c'est pas 100 posts originaux, mais c'est publié 100 posts, donc en 6 mois d'activité, enfin 5 mois et demi, pour 2,5 millions, 2,6 millions de vues. Donc ça fait quand même 25 000 de moyenne par poste, 25 000 vues de moyenne par poste. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est des bons résultats. J'ai pris 6 000 abonnés. je suis rentré dans le top 10 ouais. LinkedIn Belgique du classement d'influenceur Favicon. Ouais, c'est ça. À côté du premier ministre belge, du fondateur de Odoo, la licorne belge, à côté de personne.
Ex-addict à la cocaïne à côté du premier ministre belge dans le classement. C'est ça le pouvoir de LinkedIn.
Mais c'est vraiment ça. Et puis bon, c'est pas pour leur casser du sucre sur le dos, mais dans le top 10, on est deux à écrire nos posts, tu vois, dont moi. Donc, tu vois, les autres, c'est des gens qui ont des services de com, des services de com ou des ghostwriters, effectivement, parce que le premier ministre, c'est un ghostwriter qui écrit ses posts, c'est pas lui. Moi, je le souligne parce que c'est la vérité et que donc c'est une fierté aussi, tu vois, d'avoir fait ça seul et je vais pas dire que ça gâche un peu les classements, parce que bon, voilà, c'est comme ça, mais oui, je fais partie de
ce top 10. Ah bah si, t'as beaucoup plus de mérite quand t'es dans le classement, quand t'as écrit tous tes posts, que quand tu... Il y a des gens qui sont dans le classement Favicon qui se connectent une fois sur LinkedIn tous les 3 mois, hein, parce qu'en fait, ils délèguent tout, hein, donc faut le dire. Hein.
Ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, on en vient au sujet du ghostwriting, tu vois, c'est... pour moi, quand une personne, elle écrit pas ses posts ou qu'elle les écrit avec quelqu'un, si c'est son histoire... tu vois, il n'y a pas de problème par rapport au classement. Non. Mais le truc, c'est quand c'est, tu vois, par exemple, sur de la politique ou des trucs comme ça, c'est un journaliste politique qui écrit le post. Et donc, du coup, le profil du premier ministre, c'est le président c'est pas de la commission, mais c'est le président du Conseil européen, Charles Michel. Mais il y a aussi le premier ministre, etc. Mais en gros, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est du contenu pour moi qui est juste pas loyal, quoi. Parce que, tu vois, nous, on accompagne des gens à ghostwriter et, c'est eux qui parlent, quoi, tu vois. C'est eux qui parlent. Nous, on est là pour les aider à structurer leurs pensées, à écrire avec eux et pour eux. Mais c'est eux qui parlent. Et dans ce cas-là, moi, quelqu'un qui est au-dessus de moi dans le classement, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand c'est un journaliste politique qui écrit des super posts politiques et qui forcément fait beaucoup de vues et donc est dans le classement, moi, je me dis, voilà, c'est bien joué, mais on n'a pas les mêmes armes, tu vois. Donc,
non, c'est sûr.
Puis t'as aussi le podcast. J'ai pas fait beaucoup de promotion en dehors de LinkedIn. Donc j'ai fait la promo du podcast avec ça, et là aujourd'hui après je sais plus combien, mai, juin, je vais, c'est pas en octobre, en décembre, après 8 mois, on vient de dépasser, on a dépassé les 40 000 écoutes et on arrive sur le palier des 10 000 écoutes par mois, et donc LinkedIn m'a clairement aidé, à promouvoir ça, même si c'est pas le canal idéal, hein, le meilleur c'est Instagram, mais voilà, c'est des briques qu'il faut construire les unes après les autres, et donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et puis toutes les invitations médias, quoi, genre
fais-nous un petit panel là des invitations médias.
J'ai eu CNews, j'ai eu le 20minutes.fr, j'ai fait Fun Radio, je sais pas si je peux, c'est pas encore fait, mais bon, j'ai le Crayon qui m'a contacté pour faire pour passer chez eux, donc voilà, dans les France Bleu aussi en direct, donc j'ai des gros médias,
des gros noms,
des gros médias nationaux et plein de podcasts indépendants, quoi, plein de plus petits podcasts mais tout aussi qualitatifs sur le contenu, qui m'ont contacté pour témoigner, etc. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas ou que je n'expose pas, c'est la rencontre des gens du secteur, tu vois. Moi j'étais sur le cul quand j'ai vu des gens avec 10 ans d'expérience dans la santé mentale, des boîtes ou des médias incroyables qui m'envoyaient un message LinkedIn pour me dire on se fait une pause déj en visio quand tu veux, tu vois. Et moi, je passais une heure avec des gens qui ont même pas 20 minutes pour leur famille parce qu'ils voulaient me rencontrer, etc., tu vois. Et ça a été vraiment marquant. Je me suis dit, putain, en fait, ouais, il est là le pouvoir de LinkedIn, quoi. C'était incroyable, quoi. Et tout ça, c'est des gens que j'ai aujourd'hui dans mon réseau, tu vois, qui suivent ce que je fais et qui savent que que je suis pas là pour rigoler et qu'on est sur la même longueur d'onde et tu vois, et moi je parle d'eux quand je me déplace, je parle de moi quand ils se déplacent. Donc ça c'est la partie qu'on voit peut-être le moins, mais c'est celle qui, tu vois, elle a aussi une très très grande valeur, parce que quand les gens ils te lisent et qu'ils voient la qualité, la pertinence de tes posts, de ta prise de parole, ah, tu restes dans leur tête et moi j'ai, je peux me permettre des pauses de plusieurs mois sur LinkedIn, revenir, les gens ont pas bougé, tu vois, parce qu'ils se souviennent de moi, parce qu'ils savent, tu vois, c'est difficile d'être passé sur un de mes posts et puis de l'oublier. Si jamais quelqu'un a lu un de mes posts et que quelqu'un lui parle d'un ex-addict qui a parlé d'addiction sur LinkedIn, le lien va se faire assez facilement. Donc ça, c'est vraiment aussi la puissance du personal branding et de la rédaction LinkedIn.
Ouais, d'ailleurs, si on rentre un peu plus sur tes posts, c'est vrai qu'ils sont assez reconnaissables et que tu as eu des chiffres incroyables en termes de notoriété derrière. Tu dirais que c'est quoi un peu ce qui fait que les posts marchent bien ? Donc déjà, on sait sûr qu'il y a l'histoire, le fait que ton histoire perso, elle est unique. Mais par exemple, si tu prends, je sais pas, tes posts qui ont le mieux marché, c'était quoi la recette ? Est-ce que c'était tout le temps du storytelling ? Est-ce que c'était tout le temps la même histoire et t'as juste changé l'angle ? Ou à chaque fois, tu rajoutais des éléments ? Comment t'analyses ça ?
Ouais. Ben, avant de répondre, ça m'intéresse que tu me dises comment toi, tu les perçois reconnaissables. Qu'est-ce que toi, ouais, tu identifies dans mes posts ?
Déjà, en fait, le truc principal, c'est ça fait partie des rares posts sur le réseau où t'as vraiment un lien émotionnel. Genre, tu sens de l'émotion. Donc je pense qu'il y a un travail énorme sur le storytelling dans le détail, parce qu'en vrai l'émotion, c'est dans des petits détails de l'histoire, des petits trucs qui paraissent anecdotiques mais en fait qui n'en sont pas. Alors après, peut-être que je suis un peu biaisé parce que vu que tu m'as déjà raconté les histoires en off, ça m'a peut-être touché aussi de les lire sur le réseau, raconter un peu différemment, parce que forcément c'est pas pareil quand t'entends la personne qui te le dit en face de toi que sur le... Bah après, accroche très forte, hein, forcément, beaucoup joué sur le côté ex-addict à la cocaïne, forcément. Je pense qu'au début, t'étais un peu, peut-être, t'as commencé à en parler, et après, tu t'es dit, ok, ça prend, tout le monde en parle, et tu l'as vraiment affiché dans le positionnement. Je me souviens, à un moment, t'avais changé ton titre, t'avais mis ex-addict à la cocaïne, un truc comme ça. Je pense que ça laisse personne indifférent, tu vois, sur un réseau comme LinkedIn, où t'as en titre ex-addict à la cocaïne. Et après, tu t'es servi de ça pour parler plus de ta mission après derrière, de développer des leaders sur la santé mentale. Mais en tout cas, pour revenir sur tes posts, moi, c'est le côté émotionnel qui me marque le plus.
Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est vraiment mon gros point fort. Enfin, je suis fort dans les autres styles de rédaction, etc. aussi, mais là où ma zone de génie, elle est dans le fait de raconter mon histoire et d'aider les autres à raconter la leur. Donc de la structurer. D'ailleurs, je pense qu'on avait déjà réfléchi à des sujets avec toi sur des posts ou la manière de les aborder. Et c'est là que je me rends compte et que je me suis rendu compte en pratiquant avec des clients ou des gens, c'est pas inné, c'est acquis, mais aujourd'hui c'est intégré. Tu vois, la capacité à quel est le point de départ d'une histoire, quelle est la fin et comment est-ce qu'on raconte les péripéties, c'est un truc. J'ai beaucoup travaillé à l'époque, tu vois, le voyage du héros de Joseph Campbell, qui est un pattern qui en fait dans son livre il explique pourquoi les humains sont touchés par les histoires et qu'en fait il y a des patterns répétitifs dans les histoires qui touchent les gens. Et en fait je crois que j'ai tellement travaillé ce pattern là. Et je me suis tellement entraîné à l'écriture, à raconter des histoires, etc., qu'à un moment donné, c'est intégré, tu vois. Et donc, c'est devenu automatique et j'ai plus besoin de retourner sur les structures et de voir des templates ou quoi pour écrire. Donc ça, c'est pour la partie histoire. C'est de la compétence et de l'expérience au fil des années qui m'amène à un niveau de capacité à raconter des histoires et à faire des émotions. C'est aussi en ayant lu et en ayant écrit beaucoup, en ayant lu beaucoup de textes qui parlaient d'émotions, etc., où moi je me sentais touché, j'analysais le texte, je me disais tiens, qu'est-ce qui m'a touché dans ce texte-là, comment est-ce que il est construit, tu vois, c'est la phase d'analyse de tous les mecs qui écrivent et dont la compétence c'est l'écriture. Donc ça, je dirais que c'est vraiment, si on peut prendre le truc d'un point de vue profond, c'est les fondations, c'est la base qui me permet d'avoir d'écrire ce genre de poste. Et puis après, oui, tu parlais de comment dire, des accroches, ouais, en gros, etc.
Ça m'intéresse de voir un peu, c'est quoi ta réflexion? Est-ce que quand tu commences un poste, t'as le truc, le point A, c'est ça, le point B, c'est ça, et voilà ce qu'on va raconter entre les deux. C'est quoi un peu ton... parce que je pense qu'on a tous nos spécificités.
Je commence par une situation qui, moi, émotionnellement, m'a énormément touché. C'est-à-dire, je vais réfléchir aux les descentes chimiques après la consommation de MDMA. Donc ça, c'est un point de départ. La descente chimique, c'est un moment dégueulasse. La descente, t'en chies, t'es pas bien, t'as mal à la tête, tu vois, ça englobe en fait tout un imaginaire et physique et émotionnel. Et donc à partir de là, je vais par exemple mettre la descente au milieu de mon esprit ou sur la page. Et puis je vais essayer de reprendre un peu de hauteur et d'un point de vue méta, ok, dans quoi est-ce que s'intègre la descente. Là, je prends l'exemple en direct du post que j'ai écrit, qui est celui qui avait le mieux marché. Sur les 25-35 ans se détruisent à la drogue de l'amour.
Oui, je me rappelle.
Et donc moi, je parle de la descente de la MDMA et de comment ça se passe dans l'esprit d'un consommateur avec la MDMA. Et donc, en fait, tu vois, je rajoute du contexte et j'ai le sujet, puis j'ai la situation, puis j'ai le contexte et puis j'ai le contexte global. Donc, c'est-à-dire le contexte global, c'est les jeunes de 25-35 ans se détruisent à la drogue de l'amour. Et puis le contexte un peu plus rapproché, c'est... À quel moment est-ce que tu penses à la consommation? À quel moment tu commandes? À quel moment tu consommes? À quel moment tu es en descente? Et comment ça se passe à la fin? Donc ça, c'est vraiment le contexte un peu plus micro. Et puis l'émotionnel. En fait, ça va paraître un peu bête, mais c'est juste que comme c'est vrai, les gens vont se reconnaître dans la situation. Quand tu surjoues pas les choses et que tu les racontes comme elles arrivent, en fait, même quelqu'un qui n'a pas vécu ce que tu écris va te dire je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ou alors je l'ai vécu par d'autres choses. Et ça, c'est un truc qui m'arrive tout le temps, ou en tout cas très souvent, c'est j'ai pas vécu la même
chose. Les gens qui se reconnaissent, ouais, ils s'identifient alors que c'est pas exactement ça.
C'est ça, j'ai pas vécu la même histoire que toi, c'est pas les mêmes éléments, c'est pas la même situation, mais dans le fond de ce que tu racontes, ça connecte, tu vois. Et je pense que c'est ça le truc, c'est la vérité, l'authenticité, même si l'authenticité ça veut tout et rien dire, mais d'une certaine manière c'est ne pas surjouer. J'ai rien surjoué. Des fois j'étais un peu gras sur mes accroches parce que ça reste LinkedIn et que j'étais ok de pousser un peu le curseur sans exagérer sur mes accroches. Mais ouais, en gros, c'est la structure. La structure, un début. Il y a aussi un truc qui marche. On va dire qu'il faut avoir dans une recette de poste qui raconte une histoire comme celle-là, où on a traversé une épreuve, où on a eu vraiment quelque chose de difficile à raconter. C'est partir du bas et arriver sur une résolution finale heureuse, ou en tout cas de vainqueur, ou de, tu vois, c'est la première ligne du poste, c'est je les ai plus en tête, mais par exemple je prenais de la cocaïne, je me détruisais à la cocaïne, je faisais ça seul, enfin voilà, je prenais au pire de mon addiction, je prenais jusqu'à 4 grammes de cocaïne et je buvais 2 bouteilles de rhum seul, sans fermer les yeux et sans sortir de ma chambre. Et donc ça, c'est le point de départ qui est très très bas et qui est très c'est douloureux, etc. Et à la fin, je termine par aujourd'hui j'ai lancé mon podcast et j'ai super bien avancé dans la vie, je suis heureux, je suis à ma place, c'est ça ma mission, tu vois. Donc tu pars de très loin, tu traverses des épisodes et des péripéties, et puis après à la fin t'arrives sur une conclusion heureuse, et c'est un peu le même principe que dans les films, si tu veux, et c'est là que le parcours, le template ou le pattern du voyage du héros de Campbell est intéressant. C'est que bah, dans les films, c'est souvent, tu vois, la morale, c'est souvent le gentil qui gagne à la fin. Il y a toujours une note de fin positive. Bon, pas sur tous les films, hein, mais t'as quand même dans les histoires souvent ce truc de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, tu vois. C'est un peu ce truc-là. Donc partir du très bas et arriver vers le haut, ça c'est une trame assez classique qui fonctionne bien.
Ouais, c'est important ce côté moral un peu, ce truc de conclusion. Je remarque un peu le pattern dans les posts qui fonctionnent bien, les posts storytelling sur LinkedIn. S'il n'y a pas ce truc à la fin de « Ok, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Quel est le truc inspirant qu'on retire de cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'on a appris ?» Si tu donnes pas un peu une direction de quoi penser de cette histoire-là, en général, la personne commente pas. En fait, je trouve que c'est vraiment les 2-3 dernières lignes qui vont déclencher l'engagement derrière parce que ils finissent par ça. Et du coup, si tu dis, je sais pas, tu parles d'un entrepreneur successful en France et tu dis un modèle de réussite à la française, bah les gens ils vont commenter trop bien, fierté d'avoir cet entrepreneur en France, des trucs comme ça, tu vois. Mais si tu dis pas cette petite phrase là, les gens ils sont là devant leur, ils sont très feignants, tu vois, ils sont là, ils savent pas quoi commenter. Donc faut les diriger un peu subtilement dans la conclusion, je trouve.
Ouais, c'est vrai. En fait, il y a plusieurs techniques hein, pour conclure. Moi, sur les posts personnels, c'était juste des magnifiques chutes, tu vois. C'était chaque fois des chutes ultra réfléchies. Enfin, à chaque fois, en tout cas, souvent des chutes très originales. C'est-à-dire que ça n'engage, voilà, ça clôturait le post et c'était aussi qualitatif que tout le reste du post et c'était un peu des, ah, c'est pas, je dis ça en toute modestie, mais c'était des éclairs de génie. C'est-à-dire que c'est des trucs que je saurais difficilement reproduire. Tu vois, je pourrais me remettre
la punchline de fin, la phrase qui.
C'est des trucs qui tombent à ce moment-là et tu peux après essayer de faire un post comme ça, t'y arriveras pas. Tu vois, je vais pas me la jouer non plus. Je serais probablement pas capable en toute proportion gardée, c'est aussi comme quand tu vois t'as des chanteurs qui te disent j'ai écrit un texte en 5 minutes et puis la chanson tout le monde la kiffe et tout. Bah sauf que le truc c'est que moi je publie que 10% de ce que j'écris sur LinkedIn ou tout court dans mes posts et donc derrière il y a un travail d'écriture quasiment quotidien qui fait que des punchlines comme ça il m'en a fallu 50 ou 100 ou 200 avant d'avoir dans mon cerveau à ce moment-là sur le post la capacité de la trouver, tu vois. Donc ça c'est des trucs difficilement tu peux difficilement aider des gens à faire la même chose, mais c'est clair qu'une punchline originale qui comprend et qui englobe tout le poste, ça fonctionne bien parce que en fait ça d'un point de vue émotionnel ça met les gens dans un état où en fait ils ont besoin de répondre quelque chose même si tu leur as pas proposé. Et sinon après tu peux engager à la conversation, tu peux demander qu'est-ce que vous en pensez, ou toi t'as des raccourcis un peu plus simples mais qui fonctionnent tout aussi bien.
Je suis chaud qu'on parle un peu de santé mentale. Bon, on en parle depuis un peu depuis le début, mais là c'est un sujet qui touche pas que les personnes atteintes, enfin les personnes addictes, c'est aussi plus globalement un sujet tout court pour les entrepreneurs et tout le monde. Surtout avec LinkedIn, on lit beaucoup de choses sur LinkedIn, tu peux avoir beaucoup de gens qui partagent des énormes succès, des chiffres énormes, ça peut générer une certaine culpabilité. Moi c'est un sujet cette année, la santé mentale à titre perso, j'ai envie de travailler dessus. 2023 j'ai travaillé sur la santé physique, maintenant je vais continuer la santé physique, mais la santé mentale je pense que je peux aller plus loin. Enfin, vu que je fais pas grand chose à titre perso, là j'ai enclenché certaines choses et je vais essayer de travailler ça. Ça m'intéresse de voir toi, c'est quoi un peu les actions que tu mets en place pour améliorer ta santé mentale.
Ouais, déjà il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que on peut pas dissocier santé physique et santé mentale. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et ils sont indissociables et que d'ailleurs, très souvent, pour améliorer sa santé mentale, il faut améliorer sa santé physique. Pour plein de choses, moi, je suis concerné par un état de stress post-traumatique complexe. Donc, c'est le cerveau qui, à certains moments, a pas été capable de gérer des choses et qui les revit des événements du passé alors que t'es pas spécialement en train de les vivre ou pas du tout. Et travailler par exemple sur sa musculation, aller marcher, aller à l'air libre, être en contact avec la nature, c'est des choses qui aident beaucoup dans la réduction des symptômes et dans la guérison ou le rétablissement de ce genre de choses. Donc et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois c'est valable pour la dépression, enfin pour vraiment pour tout ce qui concerne le champ de la santé mentale. Prendre soin de sa santé physique et faire des activités, c'est ça a un impact énorme positif là-dessus. Et de mon côté, bah je dirais qu'il y a déjà le fait de travailler, si tu veux, sur mon passé, d'avoir travaillé sur pas mal de choses, d'avoir accepté, digéré, fait des travaux de deuil, accepté que ma maman n'était pas une vraie maman, que j'avais plus vraiment, enfin que j'ai jamais vraiment eu de parents, parce qu'un papa absent, alcoolique, que je connais, que je fréquente, mais c'est vrai que c'est pas un papa, quoi. Il y a pas de soutien, il y a pas de présence émotionnelle de sa part, parce que il en a juste pas les outils ou les capacités de par sa condition, sa personnalité, etc. Donc travailler sur soi, tu vois, engager des démarches pour avancer sur des sujets qui nous pèsent, les non-dits dans la famille, les choses un peu douloureuses qu'on préfère garder sous le tapis parce que c'est plus facile et qu'on a pris l'habitude de les enfuir. Tous ces trucs-là, en fait, c'est pour moi, c'est vraiment la base. C'est pas évident, j'en ai conscience, je l'ai traversé, donc je sais ce que ça demande comme effort, je sais ce que ça représente en termes de tourbillon d'émotions et compagnie. Donc je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est par là que moi j'ai commencé et que je conseille à n'importe qui de commencer. Parce qu'une fois qu'en fait tu t'es libéré de tous ces trucs, ça a l'air de rien, mais en réalité c'est des putains d'obstacles dans nos vies, quoi. Tous ces trucs qu'on garde au fond de nous, c'est des boules d'émotions, qui se transmettent dans le corps, qui nous empêchent de respirer correctement, qui nous construisent des blocages dans notre vie de tous les jours, relationnels, de couple, même d'un point de vue professionnel avec les relations business. Donc ça, c'est le plus gros truc que j'ai mis en place, c'est de commencer à me rétablir et de continuer ce rétablissement. Donc d'aller, de pas avoir peur d'aller voir un psychologue, un psychiatre, d'être suivi pour les choses qui doivent être suivies, de prendre des médicaments si c'est nécessaire uniquement. Ouais, c'est ça. Vraiment, ce que je retiens moi chez moi, qui fait vraiment la différence, c'est le fait de prendre soin de moi, quoi, et de pas arrêter de prendre soin de moi, et de surtout pas mettre sur le côté les trucs qui sont importants dans ma santé, quoi. Et comme ça peut être aussi bien physique que psychologique. Il y a un truc aussi qui peut paraître bête, mais qui est très important, c'est quand tu sais qu'il y a un problème, mais que tu vas pas le régler, c'est une charge mentale, parce que à chaque fois, tu te dis, oh, mais en fait, putain, merde, j'aurais dû aller voir un médecin, ou j'aurais dû en parler de ce sujet-là, et du coup, tu te fais des films dans ta tête, alors que si t'avais un pro en face de toi, tu vois, tu pourras avoir des réponses, ou même si t'avais pas les réponses tout de suite, le fait de te sentir accompagné dans un truc qui te pose problème, déjà là tu te sens mieux, tu vois. Quand je sais pas, moi surtout pour la psychologie, si jamais t'as un truc qui travaille dans ta tête depuis des années, à partir du moment où tu vas en parler à quelqu'un, déjà tu vas te dire, ah, putain, je suis déjà plus tout seul à porter cette histoire là et maintenant je sais que je suis entre de bonnes mains pour pouvoir avancer. Donc ça, si je devais retenir une grosse chose déterminante de mon parcours, c'est de demander de l'aide quand on en a besoin et de pas négliger du tout en fait l'aspect et physique et psychologique, parce que les deux sont liés. Et donc en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que personne hors de l'entrepreneuriat, salarié, peu importe le métier qu'on fait, c'est de prendre soin de sa santé d'un point de vue global, parce que quand tu vas bien dans ton corps, tu vas bien dans ta tête et vice versa.
Un beau message, je pense, pour clôturer ce sujet. Je pense qu'on a bien vu les sujets que je voulais aborder avec toi. Tu vois des choses là qu'on n'a pas abordées?
Il y avait l'aspect de ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel, au-delà des résultats. Tu vois, au-delà des résultats, et puis le fait de trouver, de comprendre et de réaliser que j'étais à ma place, ça a débloqué énormément de choses. Tu disais tout à l'heure, c'était un aspect un peu thérapeutique, tu vois, ben c'est exactement ça, quoi. Et ça rejoint un peu le sujet des peurs ou des doutes ou pas. C'est un travail très compliqué pour beaucoup de monde et que je comprends, hein, encore une fois, c'est d'accepter qui on est avec nos défauts, nos qualités, nos faiblesses et aussi nos forces. Et moi, faire ce travail de publication, en gros, voilà, j'ai mis les pieds dans le plat et c'était en gros qui même me suivent. Moi, je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais que je raconte la vérité. Je sais que je le fais pour des raisons qui sont, en tout cas pour moi, importantes. Donc le reste, je m'en fous en fait. Et ça a été un très 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 gros déblocage dans ma vie de tous les jours, etc. Je me suis vraiment senti beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Et évidemment, ça a des répercussions positives sur tous les autres aspects de ma vie, tu vois. Quand je vivais, avoir traversé l'addiction ou avoir traversé les violences psychologiques et physiques dans la famille, c'était tellement lourd et tellement gros, ça a duré tellement de temps que quand je débarquais quelque part, j'avais l'impression que, alors de l'extérieur ça se voyait pas, mais j'avais l'impression que j'avais une pancarte sur ma tête avec un secret. J'avais besoin de me libérer de ce secret-là, tu vois. Et une manière pour moi de me libérer de ce secret-là, c'est de faire en sorte que ma vie et mes projets d'engagement tournent autour de ça. Parce que je ne pouvais pas ne pas en parler aux gens. Et une manière d'en parler avec le plus de pertinence possible et que ça ait de l'impact autour de moi, c'était de lier ma prise de parole à mes projets. Donc ça, c'est le gros truc que ça m'a apporté, c'est l'épanouissement, quoi. L'épanouissement, le fait de, ouais, d'être à ma place et d'être bien, et de me sentir bien quand je vais sur un plateau de radio, un studio radio, quand je raconte mon histoire, genre, je suis aligné, je suis apaisé, ça me remplit, tu vois. Il y a des trucs qui nous demandent de l'énergie, du travail et tout. Genre, le podcast, un épisode par semaine de 1h30 à 2h30 avec toute la communication que ça demande autour, etc. C'est un travail colossal, toi-même, tu sais.
Ouais.
Mais
tu sais pourquoi tu le fais, quoi.
Oui, mais même je le vis pas comme une corvée, quoi.
Non.
Tu vois, donc voilà, c'est tout ça, quoi. C'est vraiment un alignement. C'est le fait d'avoir trouvé ma place et d'y être bien. Et donc, tu vois, maintenant j'ai un plan de carrière. Genre, j'ai un plan de carrière. J'ai un objectif de vie, tu vois, qui est profondément relié à mes aspirations, ma personnalité, etc. On n'a que demander de plus, quoi. Tu vois.
Trop bien. Mais en tout cas, je suis content pour toi. Ça fait vraiment plaisir de voir que t'as trouvé ta place et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite, parce que je pense que c'est que le début. La future référence de la santé mentale, elle est là. Donc ça, c'est trop bien.
Trop bien.
Et on a un petit deux vérités, un mensonge pour finir. On a le fameux jeu, parce que quand t'étais venu la première fois, je l'avais pas instauré, je l'ai instauré très vite après,
ouais.
Mais j'ai eu l'idée après. Donc t'as pas eu l'occasion de te prêter à ce jeu-là. Et c'est vrai que je suis content de le relancer. Donc pour ceux qui connaissent pas le deux vérités, un mensonge, tout est un peu dans le nom, mais là, Gab, normalement, s'il a préparé, il a trois anecdotes, deux qui sont des vérités et un mensonge. Il va me les énoncer et je vais essayer de trouver quel est le mensonge. Donc je suis curieux de voir parce que connais un peu, donc.
Ah oui, j'ai dû faire gaffe parce qu'il y a plein de trucs que t'aurais, voilà, qui, voilà, j'ai dû réfléchir. en premier, c'est il y a pas longtemps, il y a quelques jours, enfin quelques semaines plutôt, j'ai été contacté par un réalisateur de série pour la télévision qui m'a proposé de jouer le rôle d'un ex-addict en rétablissement dans un épisode de sa série qui devrait sortir fin 2024. Je suis hétéro, mais ma première expérience sexuelle était avec un garçon. Et le troisième, c'est en 2011, j'ai mixé avec un DJ qui s'appelle Avicii, qui est mort aujourd'hui, dans une boîte de nuit bruxelloise.
Ok, ah ouais, c'est costaud. Alors, quel est le mensonge? Je pense que c'est soit le 1, soit le 3. Je pense que tu me l'aurais dit, le 1 quand même. Je sais pas. Si c'est arrivé récemment, peut-être que t'as pas eu le temps de me le dire. Et est-ce que t'as mixé ça? J'en sais rien. Allez, je vais dire le 1. Le mensonge, c'est le numéro 1. Le réalisateur.
Ouais, t'as juste.
Ah yes. Ouais. Ok, ouais, tu vois, je me suis dit, bon, tu m'avais parlé du crayon et tout, je me suis dit, tu me l'aurais dit à ce moment-là.
Ouais, je pense, ouais.
Tiens, je suis content de gagner, je gagne pas souvent,
Ouais.
mais on se connaît,
Mais c'est
donc
difficile
voilà.
parce que toutes les idées que j'avais, etc., t'aurais eu les réponses. Je voulais faire un truc avec, tu sais, genre du chiffre d'affaires ou des clients ou quoi. Mais bon, tu vois, on se parle assez
Oui.
souvent pour que tu connaisses les avancées. Et donc, je pouvais pas, quoi.
Ben oui. Mais de toute façon, le réalisateur, ça va devenir une vérité dans quelques temps. Donc, c'est un mensonge pour le moment, mais vu toutes les opportunités qu'il y a.
Ouais, c'est une prophétie autoréalisatrice, mais ouais, parce que j'ai un autre truc, c'est qu'on m'appelle, on m'a appelé plusieurs fois pour relire des passages de bouquins ou témoigner dans des bouquins assez sérieux sur la santé mentale et tout. Donc c'est des trucs qui arrivent de plus en plus. Et de toute façon, mon objectif final, enfin, j'en ai pas parlé parce que c'est pas l'objet, mais moi, c'est de faire des films.
Du
J'en
cinéma,
parlerai
ouais.
en temps voulu dans plusieurs années, mais c'est ça l'objectif au final, pour apporter des changements profonds dans la société à travers l'objet du cinéma et en étant sur le sujet de la santé mentale, quoi. Mais ça, affaire à suivre.
Affaire à suivre. Trop bien. Eh bien, écoute, merci d'avoir écouté tout le monde. Je mets tous les liens, le podcast au top, Sortir de l'addiction de Gabriel en lien, le LinkedIn, tout ce qu'il y aura à mettre. Merci Gab, c'était super cool de t'avoir.
Merci Victor, c'était un plaisir aussi et bonne continuation. On se dit à dans un an.
C'est ça, sur un rooftop.
Ouais, c'est ça carrément.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Super Indep, le sponsor de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour faire l'audit gratuit. À la fin, vous repartez avec une note et une liste de points de vigilance personnalisés sur l'état de santé administratif de votre micro-entreprise. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!